voudrais vous raconter l'histoire d'un chevalier, ou plutôt l'histoire d'un fonctionnaire. Oui, je sais que ce mot de fonctionnaire en plein cœur de l'été n'est pas nécessairement le premier qui vienne à l'esprit quand on veut faire rêver les auditeurs. Et pourtant, revenons au début, qu'est-ce qu'un service public ? On pourrait être tenté, pour le définir, d'opposer le service public à un service rendu dans la sphère privée, à un ami par exemple. Là où le service public est censé être rationnel, impersonnel, le service rendu à un ami viendrait lui plutôt du cœur et d'une personne singulière. Là où le service public est censé justement être public, visible, observable, objectif, le service rendu à un ami trouverait lui plutôt sa place dans l'intime, dans le secret, sans avoir nullement besoin de publicité. Bref, le service public relèverait d'une rationalité objective, le service rendu à un proche d'une générosité subjective. Il serait donc de nature différente. Mais cette opposition est trop binaire. Elle risque de nous faire rater la vérité même du service public. C'est en tout cas ce que montre avec génie le philosophe Hegel. Pour lui, service public et service privé rendu à un ami relèvent tous deux d'une forme de générosité. Simplement, au plan de l'État, au niveau du service public, donc, cette générosité prend une autre forme. Vous voyez ce que c'est que rendre service à un pote ? Eh bien, le service public, c'est pareil, mais au plan de la nation. Et donc, il faut des études, des calculs, une science qui est celle de l'administration, pour que cette générosité puisse être réelle, pour qu'elle puisse produire des effets réels. Défendre les services publics, professeurs, médecins, policiers, défendre la radio publique, c'est alors défendre cette forme objective et rationnelle de la générosité. On comprend mieux pourquoi Hegel en vient à définir le fonctionnaire comme un chevalier de l'universel. Il est celui qui rend cette générosité possible, objective, au plan de la nation tout entière. Alors voilà, je sais ce que vous vous dites. Le mec de l'URSSAF odieux au téléphone, quand on arrive par miracle à tomber sur lui au bout d'une heure d'attente, vous ne le voyez pas exactement comme un chevalier de l'universel. Je vous comprends un peu, mais il devrait lui aussi se souvenir davantage de sa nature chevaleresque et retrouver le sens du service public. Pour en parler ce matin, de ce qu'est un service public et plus généralement de notre modèle français et de la possibilité de repenser ce modèle français, j'ai la joie de recevoir l'un de ces chevaliers de l'universel, David Jaiz, haut fonctionnaire français d'une trentaine d'années, auteur de deux essais explosifs, Slow Democracy et Le Nouveau Modèle Français. David Jaiz, donc haut fonctionnaire, qui nous a rejoint sous le soleil de Platon dans la caverne de France Inter pour nous aider à réfléchir à cette belle question. Comment vivre ensemble en France ? Peut-on repenser le modèle français ?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour David Jaiz.
Bonjour Charles Pépin.
Vous allez bien ?
Bah ça va et vous ?
Vous l'avez pas mal pris que je vous traite de chevalier de l'universel ?
Pas du tout, j'ai rarement bénéficié d'entrée en matière avec autant d'alacrité.
C'est ça. Alors on va être un peu clair. Voilà, vous êtes un jeune haut fonctionnaire, vous êtes surdiplômé, normalien, énarque, essayiste. Bref, vous incarnez une figure qui parfois agace les Français. C'est d'ailleurs souvent injuste. On pourrait au moins écouter ce que vous avez à dire avant d'avoir du ressentiment dans le ventre et de se dire « Ah non, c'est bon, encore un énarque mais justement, dans vos essais, vous avez une plume très singulière. Et dans votre dernier essai, Le Nouveau Modèle Français, vous nous expliquez justement qu'il serait possible de faire en France aujourd'hui ce qu'on a réussi à faire en 45, c'est-à-dire de refonder un modèle français sur des bases nouvelles. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu votre thèse ?
D'abord, je pense qu'on est dans un moment historique charnière, comme on l'était en 1944. À la libération de la France, on a un pays qui est détruit économiquement. Les Français manquent de tout. Ils n'arrivent pas à se nourrir. Un Parisien a moins de la moitié de l'apport calorique journalier recommandé. On manque d'électricité, on manque d'énergie. Les infrastructures sont détruites à cause des bombardements. Et puis, il y a des millions de déportés, de prisonniers, de déplacés. C'est un pays qui est psychologiquement détruit aussi. La défaite militaire de 1940, alors que l'armée française se voyait comme la plus puissante du monde, et puis 4 années de collaboration infamante. Et on pourrait se dire, le pays a tout pour décliner. Or, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. Dans la Résistance, dans le fameux Conseil National de la Résistance, il y a un rassemblement d'hommes et de femmes qui viennent de traditions différentes, parce qu'il y a des communistes, il y a des socialistes, il y a des chrétiens démocrates, il y a des gaullistes, il y a même des monarchistes. Et ces gens, bien qu'ayant des philosophies sociales différentes, des visions de la France différentes, ils vont se mettre d'accord sur une sorte de compromis tacite. celui des jours heureux. Et ce compromis tacite, il tient à quelques éléments très simples. L'idée que les lendemains seront plus heureux que les aujourd'hui, que nos enfants vivront mieux que nous, une philosophie optimiste de l'histoire. La foi presque aveugle dans l'industrie, dans les vertus des grandes firmes industrielles. Et puis la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est quand même considérable qu'en quelques mois, en 1944, avec les fameuses ordonnances, on ait mis en place un système d'assurance collective à l'échelle de la nation. Et ça, c'est dû à ce compromis tacite de la résistance, alors même que, en 1945, communistes, gaullistes, on a des écoles de pensée qui sont très polarisées, très différentes, et qui s'affrontent aussi.
Donc pour qu'on comprenne bien votre position, vous dites que si ça a été possible en 1945, c'est possible aujourd'hui, que c'était bien plus difficile à l'époque de réussir à s'unir malgré les diversités et les différences, et que finalement une grande nation, c'est toujours une nation qui réussit à reproduire de l'unité dans la diversité.
Je ne nie pas la nécessité du conflit et de la controverse, c'est même le propre de la démocratie. Mais c'est comme un match de foot, quand il y a deux équipes, il faut qu'elles puissent jouer sur un même terrain. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un socle commun, c'est-à-dire un socle qui nous permet de regarder ensemble l'avenir. Ma conviction profonde, mon espérance, si j'ose dire...
Dans votre livre, donc, Le Nouveau Modèle Français,
c'est
aux éditions Allary...
C'est que la transition écologique, la nécessité non pas simplement de décarboner nos activités, mais de changer nos façons de produire, de penser, de nous déplacer, de nous alimenter, peut être le socle d'un projet de société partagé qui nous fasse renouer avec les grands élans des jours heureux.
D'accord. Concrètement, est-ce qu'on pourrait prendre des exemples de ce que ça pourrait donner, et de mesures, ou peut-être que mesure, le mot est un peu faible, mais de grands projets qui permettraient de recréer, au fond, une unité nationale dans cette période de crise ?
Autour de la question énergétique, par exemple. Parce que vous voyez bien que nous sommes, dans le monde entier, nous sommes drogués aux énergies fossiles. 80% de l'énergie que nous consommons dans le monde est d'origine fossile, c'est-à-dire que c'est du pétrole, du charbon ou du gaz. Ouais. Est-ce que vous savez quelle était la proportion en 1982, c'est-à-dire il y a 40 ans ?
Pas du tout.
80% aussi. Ça veut dire qu'en fait, en 40 ans, on n'a pas évolué. Alors oui, on a construit des éoliennes, on a construit des panneaux photovoltaïques, mais dans le même temps, la demande d'énergie fossile, qui est liée à l'augmentation de la population, à l'apparition de classes moyennes dans les pays en développement, a complètement absorber, en quelque sorte, ces efforts. Donc il faut que nous arrivions, d'ici 30 ans, à décarboner, c'est-à-dire à passer de 80 à 0. Ça suppose un gigantesque effort industriel, scientifique, technologique, mais aussi dans la sobriété. Une évolution profonde de nos modes de vie, de nos infrastructures. Et ça, c'est un projet qui est passionnant, parce que ça touche toutes les sphères de la vie sociale. Et c'est, vous parliez d'Hegel tout à l'heure, j'aime bien cette idée de générosité calculée. C'est un peu paradoxal.
Oui, tout à fait.
Et d'ailleurs, Pierre Massé, qui était le successeur de Jean Monnet au commissariat au plan, disait « Le plan, c'est l'aventure calculée.
Oui, »
C'est-à-dire, au fond, l'idée de jeter une nation dans le développement historique, mais sur la base d'objectivation, de statistiques, d'études très sérieuses. Eh bien, il faut que nous retrouvions cette aventure calculée et cette générosité calculée pour faire face au plus grand défi du siècle, c'est-à-dire le réchauffement climatique et tous les dérèglements écologiques.
Quand on vous entend, David Jaïs, on a envie d'y croire, on a envie d'espérer, mais pour vous, ça devrait passer, donc ce nouveau modèle français, par une autre façon de penser la relation entre l'État, la société civile et les entreprises. Il me semble qu'il y a ça dans votre projet, cette idée qu'il faut arrêter d'opposer au fond privé, public, et d'opposer aussi au fond les entreprises à l'État.
Ben c'est surtout qu'après 1945, on a un modèle de développement qui est presque entièrement tiré par l'État. Ça tient à plein de choses. D'abord, la spécificité française, qui est un pays où l'État monarchique, centralisé, a précédé la nation et l'a même forgé en imposant le français comme langue administrative, c'est l'ordonnance de Villers-Cotterêts, en fabriquant les grandes infrastructures des Vauban et Colbert. Donc il y a cette centralité de l'État. À quoi il faut ajouter qu'en 44-45, le capitalisme français s'était largement discrédité dans la collaboration. Donc l'État, après 1945, fait consensus dans la société. C'est lui qui va tirer le développement. Aujourd'hui, c'est pas possible de faire de la même manière. Et les défis auxquels nous faisons face, au premier chef, la transition écologique, nécessite une collaboration, une implication beaucoup plus étroite à la fois du monde industriel, du monde agricole et de la société civile et des citoyens. Et si vous voulez, on va devoir changer les infrastructures, donc c'est l'offre, c'est-à-dire comment on produit notre alimentation, comment on produit comment fonctionne notre industrie, comment on organise la ville. et l'aménagement du territoire, mais on va aussi devoir réorienter nos désirs, c'est-à-dire que l'accumulation infinie de marchandises, ça n'est plus possible. Il faut privilégier les liens sur les biens, en tout cas sur l'accumulation à outrance de biens. Et donc il y a tout un imaginaire, tout un système de préférences avec lequel il va falloir rompre. Il faut aller vers autre chose.
La route est longue.
La route est longue et surtout il faut construire quelque chose de désirable. C'est-à-dire que si on est simplement sur un discours de décroissance, de petite communauté rabougrie, rétrécie sur elle-même, ça ne va pas donner envie aux gens. C'est-à-dire qu'il faut garder, au fond, les élans de la modernité et cette puissance du désir et en même temps être en phase avec les limites planétaires.
Et d'ailleurs, c'est là qu'on comprend que dans votre dernier essai, donc le nouveau modèle français, on tire les conséquences de l'essai d'avant qui s'appelait Slow Democracy et où vous montriez que pour s'en sortir, il fallait quand même, vous me dites si j'en parle bien, ralentir les mouvements et les flux très rapides de la mondialisation, créer en quelque sorte des écluses pour que nous reprenions en main notre destin au plan des nations.
Je m'étais intéressé en fait à un sujet qui devrait tous nous passionner, mais qui n'intéresse pas assez, c'est les relations entre la mondialisation et la démocratie. Il y a une relation entre l'augmentation absolument exponentielle des échanges de toutes sortes, oui, des marchandises, des êtres humains, des informations avec Internet, et le contrat social, qui reste à l'échelle des États-nations. Et ce qu'on voit, c'est que la mondialisation, dans toutes ses dimensions, a plutôt polarisé les sociétés. On le voit encore en France avec le résultat des élections, où on voit qu'on a des Frances archipélisées, c'est un mot à la mode, qui communiquent assez peu entre elles, et qui expriment des préférences quant à l'avenir, très très diamétralement opposées. Et qu'est-ce que c'est que l'art politique ? C'est l'art de réduire justement ces fractures. C'est l'art, à défaut de nier les contradictions sociales, parce que ça c'est impossible, une société est riche et vit de ses contradictions. C'est plutôt l'art de créer des appontements. Il y a une grande école française de l'appontement, si j'ose dire, parce que nous avons une tradition de guerre civile, nous avons une tradition de conflictualité. Dès le XVIe siècle, il y a 8 guerres civiles entre 1562 et 1598. Mais il y a des figures comme Michel de l'Hôpital, haut fonctionnaire, penseur, théologien, grand chancelier, qui essaie justement de créer des ponts. Il y a aussi l'école solidariste sous la Troisième République, à laquelle je suis extrêmement sensible.
Vous pouvez nous rappeler ce que c'est ?
C'est Émile Durkheim, Léon Bourgeois, Célestin Bouglé, c'est une école de sociologues qui considère que la liberté individuelle n'existe pas dans l'absolu, elle n'existe qu'en relation avec d'autres. Nous ne sommes finalement que la moyenne des gens que nous rencontrons, des livres que nous lisons, des musiques que nous entendons, et des sociétés dans lesquelles nous baignons. Et par conséquent, quand nous venons au monde dans une société qui investit autant sur nous dans le service public depuis la maternité jusqu'à la mort, et que nous profitons de toute l'infrastructure sociale, nous avons une dette vis-à-vis de la société. Et cette dette, il faut la payer par l'impôt, par l'engagement civique. Donc la liberté, elle n'existe que prise dans un réseau d'interdépendance. Vous comprenez la puissance de cette pensée à l'heure des dérèglements écologiques. Parce que les dérèglements écologiques, ça n'est jamais qu'une extension du domaine de l'interdépendance, au-delà de la sphère sociale, mais intégrant toute la biosphère. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut être capable de faire, c'est de penser une interdépendance planétaire, à la fois sociale et écologique, et donc de construire, comme avaient su le faire les penseurs solidaristes, des institutions de justice sociale qui permettent de répondre à ces défis.
Merci David Jaïd. Quand on vous écoute, on a envie d'espérer. On va voir après ce petit moment de musique les raisons d'espérer. On entend aussi que vous n'êtes pas exactement un haut fonctionnaire comme les autres, que vous êtes très marqué par un parcours de philosophie que vous avez eu au préalable. Et on entend aussi la résonance de votre ami très proche Michel Serre, qui vient de la même région que vous, à savoir, je crois, Agen, et qui lui aussi définissait l'homme davantage par ses liens que par ses biens.
Rock the castle. البدويه خارج وصوت كي شافوش واحد منهم واحد منهم بالجيتار على حرب البندير يضرب من الحدود خرجوا من الحدود خرجوا
C'était Rachida, Rock the Casbah.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin, sur France Inter.
Nous avons toujours le plaisir d'être avec Javid Jaiz, haut fonctionnaire, auteur de cet essai chez Alary Éditions qui porte pour titre « Le nouveau modèle français ». C'est passionnant de vous écouter, David Jaiz, de sentir ce sens comme ça de l'État, de ce que Hegel avait appelé au début de l'émission, souvenez-vous, cette générosité rationalisée, objectivée. Revenons à vos propositions, pour qu'on comprenne bien votre projet, cette espérance en un nouveau modèle français. Est-ce que vous pourriez donner un exemple concret de ce qui prouve que c'est possible d'être ensemble, société civile, État et entreprise, pour assumer les défis de la modernité?
Alors, il y a en France, depuis quelques années, des lieux qui se développent, qu'on appelle les tiers-lieux. Tiers-lieux parce que ça n'est ni le lieu où l'on vit, ni le lieu où l'on travaille. En rigueur, c'est un troisième type de lieu.
Ouais.
On en a presque 1500 sur le territoire français, et il y en a un que j'aime beaucoup. C'est un tiers-lieu qui s'appelle l'Ermitage, qui est situé dans un village qui s'appelle Autrèche, entre l'Aisne et l'Oise, donc quelque part dans le nord de la France, qui a été lancé par un entrepreneur social du nom de Jean Carinthy. Et c'est un vrai projet à la fois social, solidaire, environnemental, qui a redonné vie à la communauté locale. C'est une collaboration en fait entre à la fois de l'agroforesterie, de l'agriculture biologique, de l'aquaponie. Il y a une école de code et d'informatique. Il y a évidemment une cantine et une épicerie solidaire. Et en fait, les habitants du village, qui au départ étaient un peu sceptiques, sont petit à petit venus participer en quelque sorte à ce lieu. Et moi, je crois beaucoup au tiers-lieu parce que ça peut être des ferments de réconciliation, notamment dans la ruralité. Vous savez, dans les campagnes, aujourd'hui, vous avez les anciens et les nouveaux. C'est un peu la querelle des anciens et des modernes. Les anciens habitants de la ruralité, très attachés à leur tradition, à la chasse, à un certain nombre de rites. Et puis, ce qu'on appelle les néo-ruraux, qui sont souvent des urbains diplômés, qui viennent à la campagne parce qu'ils en ont marre de vivre dans des métropoles bondées, polluées, mais qui sont assez rétifs vis-à-vis du chant du coq, de la chasse, d'un certain nombre de traditions locales. Ça crée parfois de vrais clashs. On voit dans des villages qui, d'habitude, ne présentaient qu'une seule liste aux élections municipales, un peu une liste d'union, on voit apparaître deux listes, celle des anciens et celle des nouveaux. L'intérêt d'un tiers-lieu, qui est un lieu à la fois récréatif, mais aussi productif, c'est-à-dire un lieu où on vient se détendre, où on vient se cultiver, mais aussi un lieu où on peut faire de l'agriculture biologique, où on peut faire un Fab Lab, avec un nouveau rapport à l'artisanat, où on peut aussi faire de l'industrie à petite échelle, c'est que on va se réconcilier autour du faire ensemble. On va faire de l'artisanat, on va faire de l'industrie, on va monter des projets, on va aider par exemple des sans-emploi à essayer de retrouver un travail en faisant tout un tas de démarches, on va faire de la formation. Donc vous voyez, c'est des endroits où on peut réconcilier des gens que a priori tout oppose autour du plaisir de faire ensemble. Et ce tiers-lieu d'Autrèche est particulièrement emblématique.
Et je précise bien sûr qu'il existe, hein, c'est pas un projet.
Absolument. Mmh. Alors ensuite, vous allez me dire, oui, mais ça c'est très bien, mais ce sont des initiatives locales. C'est pas sur la base de simples initiatives locales qu'on fait
société. D'autant plus que vous êtes un haut fonctionnaire, vous avez été à l'inspection des finances, et donc on se demande si c'est conciliable avec des décisions étatiques, au fond.
Et j'ai le souci, en fait, que ces initiatives passent à l'échelle. Sauf qu'elles pourront pas passer à l'échelle sur le mode...
Passer à l'échelle, ça veut dire à l'échelle nationale.
Bah, c'est-à-dire se généraliser. Quand il y a quelque chose qui marche, quand une expérimentation marche, on a envie que tout le monde en profite, et pas simplement une petite minorité. Pour passer à l'échelle, on ne peut plus le faire sur le mode fordiste, c'est-à-dire de l'époque industrielle où on prenait des décisions de manière verticale et puis ça s'appliquait de manière homogène partout. Non, ça ne marche plus.
On est content de l'entendre déjà.
Ce qu'il faut arriver à faire, c'est de la dissémination, c'est de la fertilisation croisée. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un tiers-lieu ici, un autre là, un encore là, et puis ça forme un réseau. Et ce réseau, en fait, partage les bonnes pratiques, mutualise, dissémine, capitalise, fertilise, vous voyez, c'est horizontal. D'accord. Alors, quel rôle pour la puissance publique dans tout ça? Eh bien, elle n'est plus là de manière surplombante pour donner la bonne parole, pour légiférer simplement comme avant, dans le monde de papa. Ouais. Elle est là, au contraire, pour accompagner, pour aider à capitaliser, pour mutualiser. Donc, c'est une puissance d'agrégation, on a parlé d'état-plateforme, beaucoup plus qu'une puissance de normalisation
en tout cas,
verticale.
On a compris, c'est beau, ça donne envie, c'est ce que vous vous dites, mais dites-nous la vérité, est-ce que dans l'administration dans laquelle vous travaillez, nombreux pensent comme vous, ou est-ce que vous êtes un peu isolé?
Il y a beaucoup de blocages culturels, mais c'est pas simplement dans l'administration, c'est que la France, malheureusement, n'est pas un pays où l'intelligence collective et la coopération font partie de l'ADN.
C'est
plutôt un pays qui aime le silo, le conflit.
Et voyez, aussi l'individualisme.
Et l'individualisme. Et c'est d'ailleurs lié, c'est-à-dire qu'on est dans un pays où on a tout fait pour casser les corps intermédiaires et isoler les citoyens face à l'État. Alors ça avait quelque chose de beau dans les pures jacobines, parce que c'était l'idée qu'on allait abolir les privilèges, les corporations...
Les associations, les syndicats...
Voilà, tous ces ordres anciens, d'anciens régimes, qui en quelque sorte étaient un obstacle à l'épanouissement de la démocratie et de la liberté. Sauf que quand on lit Tocqueville, quand on lit De la démocratie en Amérique, on voit bien que c'est une chose d'abattre ces anciennes cloisons qui sont celles de l'ancien régime, mais si on veut faire croître et faire prospérer la liberté et la démocratie, il faut qu'on reconstruise de nouvelles formes d'associations sur la base de cette liberté.
Tout à fait, des corps intermédiaires, des groupes, des associations. Et figurez-vous que le Hegel, sous l'égide duquel nous sommes, disait déjà la même chose. Je vais faire un petit moment d'histoire des idées, je mets ma casquette de prof de philo, ça ne durera pas longtemps, mais vous savez, Hegel, justement, était contemporain de la Révolution française que vous venez d'évoquer. Et les révolutionnaires, comme vous le savez bien, ils ont aboli les corporations. Hegel, pourtant, il adorait la Révolution française. Pour lui, c'était la marche de la liberté universelle. Et il a dit, vous les Français, révolutionnaires, vous faites une erreur. Parce que on peut pas, les individus ne peuvent pas comme ça sauter vers la citoyenneté universelle sans étape. Et donc, l'abolition des corporations... Pour Hegel, c'était une erreur parce qu'il fallait, pour lui, pour que les individus cessent d'être individualistes, pour qu'ils s'élèvent au plan d'un intérêt supérieur, commun, partagé, il fallait qu'il y ait des petits échelons, donc des syndicats, des associations, des corporations. C'est un peu ce que vous dites, au fond. C'est qu'on a besoin de se retrouver dans différents degrés de socialisation et qu'on ne peut pas directement abandonner sa peau d'individu égoïste et devenir un citoyen.
Mais c'est ce que dit Tocqueville dans La démocratie en Amérique. On a besoin d'éprouver presque charnellement les plaisirs de l'association locale, c'est-à-dire... le syndic de copropriété, l'association de quartier...
Celui-là, c'est pas le plus excitant, mais bon.
Oui, mais il faut le démocratiser. C'est-à-dire que, vous voyez, là, c'est un exemple très intéressant du nouveau modèle français. Ouais. Dans le monde où les syndics de copropriété sont gérés par de grandes bureaucraties publiques ou privées impersonnelles, bah, vous avez l'impression que votre quotidien, vos ordures, votre palier sont pris en charge par des gens que vous ne connaissez pas, avec des règles comme ça, abstraites. Mais si demain vous décidiez de démocratiser les syndics de copropriété en disant bah, les décisions, c'est les copropriétaires, la communauté des habitants qui va les prendre, il y aura des marges de manœuvre et on va pouvoir construire des choses ensemble, faire des jardins partagés, améliorer les espaces de vie communes. Bah, vous changez complètement le visage de votre quotidien. Et l'enjeu de la démocratisation, c'est pas simplement de redonner du souffle à nos institutions politiques qui sont épuisées, c'est de penser la démocratie du quotidien, la démocratie de la copropriété, la démocratie sur le lieu de travail, ce que Alain Supiot appelle la démocratie économique, la démocratie sociale dont les chorégraphies sont un peu épuisées mais qu'il faut arriver à repenser. La vitalité démocratique globale, elle se mesure à l'aune de ces petites choses-là, de ces petits cailloux qui, en s'additionnant, forment en quelque sorte le grand bain civique dans lequel nous sommes.
On comprend bien votre optimisme et votre conviction aussi, votre idéalisme aussi un petit peu. On voit tout ça dans ce très bel essai aux éditions Allary, le nouveau modèle français. Je voudrais profiter de votre présence ici. Bon, c'est assez rare qu'on reçoive un fonctionnaire. En plus, vous êtes très jeune. Pour vous poser une question, je crois qui intéresse tout le monde, qui vous paraîtra peut-être à vous un peu évidente, mais c'est important pour nous, je crois. Au fond, c'est quoi la distinction entre l'administration et la politique ?
Si vous voulez, la distinction entre l'administration et la politique, c'est que l'administration, c'est l'instrument qui est mis au service des dirigeants politiques et donc du peuple, puisque les dirigeants politiques ne sont jamais que les mandataires du peuple, pour accomplir un certain nombre d'actions et un certain nombre de politiques publiques. Et d'ailleurs, dans les premiers régimes démocratiques, regardez les régimes d'assemblée de la Convention, par exemple, après la Révolution, au fond, les administrations, c'était ce qu'on appelait des commissions exécutives qui étaient au service de l'Assemblée parlementaire. Et donc, petit à petit, c'est vrai que dans nos sociétés complexes, il y a eu une forme d'autonomisation de l'administration. Elle a grossi à mesure que la puissance publique s'est intéressée à la politique économique, la politique sociale, à mesure qu'on a construit ce que Michel Foucault appelle un art de gouverner basé sur la gouvernementalité, c'est-à-dire sur l'idée d'orienter les conduites des citoyens dans tout un tas de domaines, la vie culturelle, la vie sociale, la vie économique. Et donc, il y a d'un côté les dirigeants politiques qui sont élus, qui sont les mandataires du peuple, et il y a de l'autre les fonctionnaires qui appartiennent à l'administration et qui sont, en quelque sorte, le bras armé opérationnel de ces dirigeants politiques.
On comprend mieux donc la belle définition de Hegel, les chevaliers de l'universel. Alors David Jaiz, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, on n'a pas parlé de vous en tant qu'individu privé, enfin on va dire en tant qu'homme. Vous appelez David Jaiz et vous êtes aussi un enfant de la méritocratie républicaine. Votre père est arrivé dans les années 80 en France comme immigré algérien. Il a obtenu plus tard la nationalité française, il a rencontré votre mère. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette école, est-ce qu'elle vous a apporté, et aussi quel regard vous portez sur l'école au sein de ce nouveau modèle français? Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans cette école?
D'abord, vous dire que le trait peut-être le plus marquant de ma biographie, c'est que je suis le fruit d'un hasard, puisque ma mère a pris mon père en stop. C'est-à-dire que mon père faisait du stop en banlieue de Bordeaux, parce qu'il était étudiant algérien désargenté. Ouais. Il n'avait même pas les moyens de se payer un ticket de bus.
Il n'était pas encore français.
Pas français encore. Ouais. Et ma mère, bonne âme, l'a pris en stop dans sa petite voiture. Et donc, je me prends parfois à réfléchir à ce qui se serait passé si elle avait regardé ailleurs au moment où il a levé son pouce. Bon, je ne serais pas là dans ce studio en tout état de cause. Ouais. Et ça, c'est peut-être le trait le plus marquant. Ensuite, c'est vrai que j'ai grandi dans une famille de professeurs, donc je ne me sens pas du tout... Je ne me sens même pas vraiment un produit de la méritocratie, au sens où quand on a la chance d'avoir des parents professeurs, on a des parents qui ont accès déjà au savoir, aux filières, qui ont
cette capacité... Mon père professeur de physique, finalement.
Mon père était professeur de physique, ma mère professeur d'anglais. Et donc, j'ai grandi à la fois dans les livres, dans la culture, et puis dans le souci de la bonne orientation, en quelque sorte.
Vous avez quand même vu une école où il y avait du brassage social, et une école où l'ascenseur social fonctionnait.
Mais surtout, on m'a toujours
dit... C'est quand même moins le cas aujourd'hui.
Alors, je ne suis pas sûr que l'ascenseur social fonctionnait très bien, mais ce qui est certain, c'est qu'il se dégrade de plus en plus. Et on m'a toujours dit, dans la famille, on n'a que l'école. Parce que quand on n'a pas de patrimoine, quand on n'a pas d'héritage, quand on n'a pas de nom à particules, quand on n'est pas fils d'archevêque, au fond, le patrimoine, c'est les services publics. Et le premier de ces services publics, c'est l'école. C'est la possibilité de s'élever par la connaissance. Ce que je regrette, ce que je vis avec beaucoup d'inquiétude, beaucoup de tristesse, c'est qu'on a aujourd'hui des ghettos scolaires qui se reconstituent, c'est-à-dire des zones dans lesquelles les jeunes élèves défavorisés n'ont aucune chance de s'élever grâce à l'école. Parce que y a une relégation complète, parce que c'est des zones dans lesquelles on baisse les bras. L'État baisse les bras. Et donc, la première des politiques républicaines, ça devrait être une vigoureuse politique éducative, et on se casse les dents là-dessus depuis 40 ans.
Et c'est pour ça que j'ai été très agréablement surpris par une proposition que vous faites dans votre livre de généraliser des grands internats publics. Vous pouvez nous expliquer un peu ça ?
Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'un côté la nécessité de permettre à des jeunes méritants qu'on détecte dès l'école primaire d'évoluer dans des environnements différents de leur environnement de naissance. Donc moi, je suis très favorable à ce qu'on crée un service public de l'internat dans les collèges et les lycées publics de centre-ville, où 5 à 10% des élèves viendraient en fait de zones d'éducation prioritaire et seraient hébergés, pris en charge, éventuellement mentoré et tutoré. Oui. Parce que y a énormément d'études qui montrent que quand on crée de la mixité scolaire, on crée davantage d'égalité des chances et davantage de réussite. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner à leur triste sort les 90 ou 95% d'élèves restants dans les ghettos scolaires dont je parlais tout à l'heure. Parce que là, ce serait une politique qui, en gros, dirait on va sauver
bien
5%
sûr. Et là, vous avez d'autres mesures
d'élèves du désastre.
Par rapport à ça.
Et donc moi, je suis favorable à ce qu'on mette les meilleurs enseignants dans les zones d'éducation prioritaire, à ce qu'on y mette le prix, donc il faut les payer. Et puis, il faut qu'on crée aussi un système de contractualisation entre l'école, la famille, les activités périscolaires, autour d'un contrat de réussite de l'élève. C'est-à-dire que ces institutions qui suivent l'élève dans la semaine, les parents, les enseignants, le prof de musique, le prof de sport, etc., ils puissent communiquer en temps réel, se parler pour détecter l'échec précoce, pour détecter un élève qui est en train petit à petit de décrocher. Voyez ? Et donc, il y a tout un dispositif de suivi beaucoup plus fort qu'il faut arriver à construire pour soustraire, en fait, les décrocheurs ou les élèves en échec à d'autres tentations, notamment dans certains quartiers, la tentation, par exemple, de gagner de l'argent très vite en prenant l'exemple des grands frères qui se mettent à dealer dès l'âge de 13 ou 14 ans. Et ça, c'est la plus importante des politiques publiques.
C'est évident que ce nouveau modèle français que vous appelez de vos voeux ne pourra pas se déployer sans une réforme profonde de l'école. C'est Alexia Grady, un peu plus souvent.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin. sur France Inter.
Nous sommes toujours avec David Jaiz, essayiste, auteur notamment chez Alary Édition de Slow Démocratie et de le nouveau modèle et du nouveau modèle français, pardonnez-moi, un haut fonctionnaire un peu différent des autres, et notamment parce que avant de se mettre au service de l'État et donc de ce service public qu'on a redéfini avec Hegel comme une générosité rationalisée, eh bien, vous avez fait beaucoup de philosophie, notamment vous avez eu cette belle rencontre avec Michel Serres à l'École normale supérieure de la Rue de Ville, mais je précise quand même si ça ne parle pas à tout le monde, mais c'est assez particulier que vous êtes entré premier à Normale Sup en spécialité philosophie. Racontez-nous un peu cette rencontre avec Michel Serres, et puis aussi cette rencontre avec Plotin, parce que j'ai été très surpris d'apprendre, pendant qu'on écoutait cette musique, que vous êtes un spécialiste de Plotin. Attention, hein, nous sommes sous le soleil de Platon, nous ne parlons pas de Platon, mais de Plotin, ce qui n'a rien à voir.
Alors, je n'ai pas la prétention de dire que je suis un spécialiste de Plotin. Hein. J'ai simplement étudié Plotin en spécialité philosophie, en cagne, quand je préparais le concours de Normale
Sup. Mais c'est dingue, ça, parce que pour que les auditeurs comprennent, Plotin, c'est un mystique absolu, très, 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 très hermétique, très dur à lire.
On peut dire que Plotin, c'est celui qui a radicalisé Platon, d'une certaine manière. C'est-à-dire que chez Platon, le soleil a les contours rassurants du soleil qu'on peut observer dans les textes de Camus, par exemple. Chez Plotin, le soleil, c'est ce qu'il appelle l'imbien. C'est vraiment ce premier principe, cette donation originaire d'énergie qui est à l'origine de la création, de l'esprit, du monde. Et donc, il y a quelque chose de... Il a radicalisé Platon, d'une certaine manière.
Il est allé plus loin, je dirais, parce que chez Platon, le beau, si vous voulez, c'est l'indice du bien. Donc, Platon, on parle de la splendeur de la vérité, ce qui veut dire que quand on a un beau corps, par exemple, si on se laisse porter, ça va nous mener à l'idée du bien moral. Pour Plotin, c'est beaucoup plus sibyllin. Plotin dit le beau est la trace de l'un. Ça veut dire quoi ?
C'est que, en fait, quand on observe un beau corps ou une belle forme, une belle œuvre d'art, en fait, on voit dans cette belle œuvre d'art ou dans ce beau corps la mémoire de quelque chose de plus fondamental, et ce quelque chose de plus fondamental, il est inanalysable. Ouais. C'est l'un bien, en quelque sorte. Mais si je dis que c'est une radicalisation de Platon, c'est parce qu'il y a une volonté d'aller vraiment à la racine, c'est-à-dire à qu'est-ce qui est le premier principe, qu'est-ce qui explique le monde, en quelque sorte. Et ce qui explique le monde, c'est cette unité première, originelle, qui est aussi une donation d'énergie, parce que c'est à partir de cette émanation d'énergie première que l'esprit, d'abord, qu'il appelle le nous, se constitue, et ce n'est qu'à partir du nous que le monde matériel prend forme. Donc il y a une espèce de dégradation aussi continue de l'énergie. Plus l'énergie se dégrade, plus elle entre dans la réalité. Et ce qui est très intéressant, c'est que Plotin, c'est un philosophe donc, qui sévit à Rome, mais qui est originaire d'Alexandrie, et qui a probablement été au contact des sagesses orientales, et notamment indiennes. Et il sévit au moment où l'Empire romain bascule, c'est-à-dire au début du déclin. Et il y a pour moi un lien entre ces pensées mystiques, qui sont en fait des volontés de mise en ordre extrême, notamment de la vie intérieure, et l'écroulement extérieur, de l'effondrement de toutes les certitudes politiques, militaires que commence à traverser l'Empire romain. Et c'est aussi à cette époque que le christianisme comme religion se développe dans l'Empire romain. Je dis bien le christianisme comme religion, pas comme révélation. Le christianisme comme révélation, on connaît tous l'histoire du Christ en Palestine, quelque part vers 20 ou 30 après sa propre naissance. Mais le christianisme comme religion, c'est-à-dire comme organisation sociale, ça ne se développe vraiment qu'à partir du 3e siècle, 4e siècle, c'est-à-dire quand l'Empire romain amorce
son déclin
irréversible. Donc les religions, et ça c'est une thèse que mon ami l'historien Gabriel Martinez-Gros s'apprête à défendre dans un livre décisif qui va paraître en septembre prochain.
Comment ça
les grandes religions, ce sont des religions, que ce soit l'islam, le bouddhisme ou le christianisme, elles prennent en quelque sorte la relève des empires déclinants.
Politiquement, bien sûr.
Absolument.
Et d'ailleurs, c'est marrant parce que cette émission est délirante. On est encore sous l'aile de Hegel, parce que Hegel a magnifiquement montré que quand les empires déclinent, quand la politique décline, c'est là que fleurit la philosophie, la spiritualité, la mystique. Et donc c'est très intéressant. Est-ce que vous pensez qu'on est dans une époque de déclin comme ça ?
Je pense qu'on est dans une époque de renaissance. Et effectivement, il y a... Alors qu'est-ce qu'il y a comme empire aujourd'hui ? Il y a des puissances impériales régionales, comme la Russie en fait la démonstration dans cette horrible guerre en Ukraine. Et la différence entre un empire et une nation, c'est qu'un empire n'a pas de frontières. C'est d'ailleurs ce qu'avait répondu Vladimir Poutine à un écolier qui lui disait « Où sont les frontières de la Russie ?» Il disait « La Russie n'a pas de frontières. Un empire n'a pas de frontières. Il n'a que des marges. » Et le principe de la poussée impériale, de la trouée militaire impériale, c'est de repousser toujours plus loin ses marges. Et un empire finit toujours par s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions. Et c'est dans ces moments-là que s'engouffrent des démarches de spiritualité, comme le christianisme dans l'effondrement de l'Empire romain, comme l'islam, parce que l'islam comme religion, il y a la révélation de Mohammed au 7e siècle, qui est liée aux tribus d'Arabie, mais la religion islamique, c'est, comme fait social, se constitue au moment où l'empire abbasside commence à battre de l'aile. Et on peut dire pareil du bouddhisme avec la Chine.
C'est très intéressant. Comme on est en plein cœur de l'été et que vous avez parlé de cette plotin et de cette espèce d'énergie au début qui se perd comme ça, c'est très beau pour nos auditeurs de se dire que ce soleil que vous voyez comme ça, alors non pas celui de Platon mais celui de Plotin, au fond, ce que vous voyez, même la beauté, c'est la trace de quelque chose qui a été là il y a longtemps, qui a été la première vérité et dont on ne voit comme ça que ce qui reste en quelque sorte. Ce qui veut dire que vous, là, vous êtes sur la plage, vous regardez les montagnes et vous dites voilà, voilà, ça, c'est pas la vérité, c'est la trace, c'est ce qui reste, c'est ça, Plotin. J'ai préparé pour vous, David Jaïs, un texte de Camus qui, à mon avis, nous fait résonner autrement, peut-être, cette beauté de la lumière plotinienne. C'est un extrait de Noce à Tipaza, c'est un des textes que je préfère dans la littérature et la philosophie française, et j'ai pensé que ça pouvait vous parler, vous faire plaisir. Donc Camus, Noce à Tipaza. Bien pauvres sont ceux qui ont besoin de mythes. Ici, les dieux servent de lit ou de repère dans la course des journées. Je décris et je dis, voici qui est rouge, qui est bleu, qui est vert. Ceci est la mer, la montagne, les fleurs. Et qu'ai-je besoin de parler de Dionysos pour dire que j'aime écraser les boules de lentisques sous mon nez? Est-il même à Déméter ce vieil hymne à quoi plus tard je songerai sans contrainte? Heureux celui des vivants sur la terre qui a vu ces choses. Voir et voir sur cette terre, comment oublier la leçon? Au mystère d'Éleusis, il suffisait de contempler. Ici même, je sais que jamais je ne m'approcherai assez du monde. Il me faut être nu et puis plonger dans la mer, encore tout parfumé des essences de la terre, laver celle-ci dans celle-là et nouer sur ma peau l'étreinte pour laquelle soupirent lèvres à lèvres depuis si longtemps la terre et la mer. Entrer dans l'eau, c'est le saisissement, la montée d'une glu froide et opaque, puis le plongeon dans le bourdonnement des oreilles, le nez coulant et la bouche amère. La nage, les bras vernis d'eau sortis de la mer pour se dorer dans le soleil et rabattus dans une torsion de tous les muscles. La course de l'eau sur mon corps, cette possession tumultueuse de l'onde par mes jambes et l'absence d'horizon. Sur le rivage, c'est la chute dans le sable, abandonnée au monde, rentrer dans ma pesanteur de chair et d'os, abruti de soleil, avec, de loin en loin, un regard pour mes bras où les flaques de peau sèche découvrent, avec le glissement de l'eau, le duvet blond et la poussière de sel. Voilà, David Jaïs, c'était Camus, Noce à Tipaza, on est loin de l'administration.
Et on est loin du soleil de Platon aussi. Parce que là, on a une profession d'adhésion spontanée au monde dans ce qu'il a de plus évident, de plus sensible, de plus charnel. C'est un texte magnifique. Et vous savez, la première fois que je suis arrivé à Alger, qui est la capitale du pays de mon père, mais que je ne connaissais
vous
pas...
Vous aviez quel âge ?
J'avais une vingtaine d'années. Quand on arrive en bateau à Alger et qu'on voit cette ville comme un amphithéâtre, finalement, qui se découvre sous nos yeux...
Ouais.
Camus disait d'ailleurs qu'elle ressemblait au fruit de la grenade, vous savez, ce fruit ouverte.
Oui,
tout à fait.
Ouais.
Eh bien, on ressent ces choses-là charnellement. Mais c'est une polémique anti-platonicienne,
tout
en réalité. C'est-à-dire, au fond, il nous dit, ces philosophes grecs, que sont-ils allés nous chercher des arrière-mondes, des vérités intelligibles, alors que tout était là, sous nos doigts, sous nos lèvres, sous nos yeux. Et finalement, c'est presque aussi une critique des yeux. C'est-à-dire que c'est à cause de la vue, c'est à cause de la lumière que la philosophie a autant intellectualisé les choses.
Je vois ce que vous dites, comprends ce que vous dites.
Si on touchait davantage, si on sentait davantage, si on goûtait davantage, on n'aurait pas besoin d'intellectualiser à ce point et les mystères d'Éleusis seraient ce qu'ils sont,
ouais.
C'est-à-dire un pur moment d'extase charnelle.
C'est exactement la critique que Nietzsche fait à cet intellect platonicien en disant voilà, il faudrait remplacer la vue par le nez, il faudrait sentir au lieu de voir. Reste que si j'ai choisi ce texte, c'est parce qu'on peut aussi le lire avec un œil plotinien. C'est-à-dire, ok, Camus dit voilà, tout est là, c'est la sensualité, la chair, l'os, le sel. Mais on peut aussi penser que cette lumière-là, cette chair-là, est la trace de l'un au sens de Plotin.
Oui, et il y a une grande différence entre Plotin et Platon qui fait que Plotin est finalement plus charnel que Platon. C'est que chez Platon, l'idée est première. Chez Plotin, il y a quelque chose derrière les idées et derrière l'esprit, et c'est cette donation première d'énergie dont on ne peut faire l'expérience que si précisément on se débarrasse de tout intellect dans ce qu'il appelle l'extase. Et là, vous voyez revenir la mystique indienne.
Tout à fait, l'extase. Hein, oui.
Les fakirs, quand ils méditent, en réalité, ils font le vide. Ils se débarrassent de toutes leurs pensées et ils accèdent à l'extase, c'est-à-dire à ce moment de donation originaire.
Et bien justement, David Jaïs, écoutez Lucien Gerfagnon nous parler de cette extase.
Les idées mêmes ont besoin d'un principe. Et ce principe ne peut pas être indéfiniment multiplié. Sans quoi on est saturé déjà, on ne va pas plus haut, on ne va pas plus haut que les idées. Or, Platon montait jusqu'à l'un bien. Et il veut en faire autant. Et à ce moment-là, c'est par un effort d'extase. On a traduit ça comme ça. En réalité, Plotin ne parle pas d'extase. Il dit haplosis. Haplos, ça veut dire simple. Un effort de simplification. L'extase plotinienne, c'est ça. C'est se simplifier. C'est arriver à ce désintéressement absolu de tout. Et c'est très mystique, ça. Ce désintéressement absolu de tout, où on devient haplos, simple.
Alors, David Jaïs, c'était la belle voix de Lucien Gerfagnon. Je précise qu'il a dit Platon, mais en fait, c'est Plotin, évidemment, c'est sa langue à fourcher. Et est-ce que vous parlez de ça avec vos collègues du ministère des Finances ?
Il y a des personnalités originales et tout à fait intéressantes au ministère des Finances. Ne tombez pas dans la caricature, cher Charles Pépin. Mais vous savez, j'ai le souvenir d'un texte que j'avais eu au concours de Normale Sup en latin. C'était un poème de Rutilius Namatianus, ouais. Poète païen, au moment de l'effondrement de l'Empire. Polémique extrêmement violente contre les chrétiens. Mais en réalité, dans le plotinisme, qui est un paganisme, ouais. Et dans le christianisme des pères de l'Église, vous avez un schème commun, c'est cette recherche de la simplification et du dénuement. Parce que chez saint Augustin, finalement, l'accès au Christ,
hein, bien sûr.
La capacité à se délester,
il faut être nu.
Cette pauvreté,
nu devant
cette
Jésus.
Nudité, ce dénuement ressemble énormément à l'extase plotinienne.
David Jaïs, vous êtes un haut fonctionnaire un peu différent, on l'entend. D'ailleurs, on vous a vu récemment aux côtés de Gad Elmaleh à la canonisation de Charles de Foucault. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas ?
Alors, Charles de Foucault est un personnage auquel je m'intéresse beaucoup, et c'est le cas de Gad Elmaleh aussi, parce que voilà quelqu'un qui a eu une vraie trajectoire de vie. C'est-à-dire qu'il a été un officier, on peut le dire, partouzard, amateur de toutes sortes de plaisirs, de bonne chair. Et puis, il y avait quand même en lui la trace de quelque chose d'autre, vous voyez ? C'était pas quelqu'un qui était juste voué à se commettre dans les délices de Capou et à dilapider son immense fortune. Non, il y avait la nostalgie, dès le début, on le sent, cette inquiétude de quelque chose d'autre. Il va traverser le Maroc, déguisé en rabbin, et au contact de l'islam, il va redécouvrir la spiritualité. Et il va finalement se reconvertir, en quelque sorte, puisqu'il est d'une famille chrétienne, au christianisme. Il va avoir un parcours spirituel très riche, et il va finir sa vie dans le désert du Hoggar, au contact des Touaregs, dont il va établir le premier dictionnaire, d'ailleurs, français Touareg. Et donc, Charles de Foucault, c'est une personnalité extraordinaire, parce que c'est d'abord une vie extraordinaire, et c'est l'histoire de Charles de Foucault, c'est l'histoire d'un amaigrissement.
Ouais.
C'est l'histoire d'un...
On retrouve un peu la simplification.
Exactement, c'est l'histoire d'une simplification. Et il a été canonisé récemment parce qu'on lui prête un miracle.
Ouais. Lequel ?
Bah, y a un jeune charpentier qui s'appelle Charles, qui était employé dans une entreprise de rénovation de bâtiments anciens, qui travaillait au sommet d'une chapelle qui était elle-même dédiée à Charles de Foucault, qui a fait une chute de 15 mètres, qui avait tout pour être mortel, puisqu'il s'est empalé sur le pieu d'un banc de messe, qu'il a traversé de pas en pas, et ce jeune Charles s'en est sorti indemne. Et donc, il y a eu toute une enquête, vous savez, quand il y a un miracle, on diligente une enquête. Les médecins ont dit, c'est pas normal. Des hommes d'église aussi se sont penchés là-dessus et on a reconnu le miracle. Ce qui est très amusant, c'est que ce jeune Charles, il est toujours athée.
Merci beaucoup David Jaïs. C'était un plaisir de parler avec vous de service public, de Hegel, de Charles de Foucault, de Plotin et bien sûr de la réforme de l'État français. Je vais essayer de résumer pour nos auditeurs la philosophie de la vie qui a été la vôtre ce matin. C'était franchement passionnant, très singulier, très atypique. Alors bien sûr, une philosophie hegelienne, puisque au sens du service public et de ses chevaliers de l'universel, une philosophie aussi, on l'a entendu, plotinienne, avec quelque chose de mystique où je cherche à ouvrir les yeux pour retrouver la trace d'une énergie première qui peut-être il y a longtemps nous a créés, mais nous nous voyons apparaître simplement ceux qui restent. Et puis enfin, une philosophie proche de celle de Michel Serres, votre ami qui vient comme vous de la ville d'Agen, d'ailleurs vous avez fondé le festival Michel Serres dans cette ville d'Agen, et une philosophie des liens beaucoup plus que des biens, car c'est ainsi qu'on va refonder le nouveau modèle social français et le nouveau modèle français en général, ainsi que vous nous y invitez dans votre très bel essai chez Alary Édition. Être ensemble, tous, mais pas comme des joueurs de foot, plutôt comme des joueurs de rugby au sens de Michel Serres, l'État, les entreprises, la société civile pour affronter enfin les défis de cette modernité. David Jaïs, merci, je recommande vos deux essais. Cette émission a été préparée par Vera Lou Deride et Fabrice Rivaud, à la réalisation Camille Maty, à la programmation musicale Valentine Chedebois, à la technique le binôme Vincent Désière et Élise Christophe. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain matin à 9h exactement sous le soleil de Platon sur France Inter.